7 Geek. Saguenay, midi pile.
À midi 22 minutes, on a moins 4 degrés à Saguenay, c'est moins 3 le maximum. De la neige qui s'intensifie, se poursuit depuis le matin. Oui. Hein, c'est ce qui est prévu encore pour quelques heures. Dans les prochains jours, on est dans le négatif, donc ça restera un petit bout de temps. Quoique vendredi, la pluie est au programme, donc ce sera au-dessus du point de congélation. On verra si ce sera officiellement qualifié ce qu'on a actuellement de première neige, c'est-à-dire de la neige qui reste un petit peu plus longtemps. On pourrait faire l'exercice au secondaire, on pourrait faire l'exercice au collégial, mais à l'université, ça semble plus flagrant d'après des données fournies par quelques universités dans la province. Des cas de tricherie, de plagiat en raison des cours à distance, des examens également dans certains cas qui se font à distance. C'est répertorié entre autres par Radio-Canada il y a quelques jours. Il y a des étudiants qui font des groupes Facebook, qui s'envoient des réponses. On a été mis courant même d'une conférence téléphonique pendant un examen de plusieurs étudiants qui s'échangeaient des réponses. Il y en a qui vont directement sur Messenger pour envoyer à un ami pour savoir, donc, cette question-là, pourrais-tu m'éclairer, m'aider un petit peu sur telle affaire?
Écoute,
il y en a d'autres qui exigent même pas des profs que la caméra soit ouverte quand les étudiants assistent à un cours à distance.
Imagine-toi.
Donc, il y en a qui mettent des petits papiers, des petits post-it tout le tour de l'écran avec les réponses, avec des notes. Donc, tu sais, même si la caméra est ouverte, ils ont l'air de regarder en tout temps, ils n'ont pas l'air de regarder dans les manuels. Les réponses sont là, mais ni vues ni connues, personne ne le sait.
Les techniques de trichage ou de falsification scolaire ont énormément évolué. Le contexte académique de la pandémie en est un très spécial où on a dû basculer en mode virtuel. Évidemment, ça permet de fournir un enseignement pédagogique, donc éventuellement des évaluations pédagogiques, mais si vous pensiez que les tricheurs allaient prendre un break pendant ce temps-là, vous vous trompez. Et oui, effectivement, parce que c'est relativement nouveau pour bien des gens, ben, les tricheurs ont senti une belle occasion de peut-être, effectivement, soit échanger des réponses entre eux ou de se garder des petites fiches à portée de main puis que ça paraisse pas trop.
On va rejoindre Patrick Giroux, qui est professeur aux sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi. Monsieur Giroux, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Moi, ça va très bien.
Dites-moi donc, est-ce que c'est évitable ce qui se produit actuellement?
Est-ce qu'on va être capable de l'éviter totalement? Non, là, je pense qu'il y a toujours eu de la tricherie. Il y en avait avant à tous les niveaux, puis il va toujours en avoir. Mais on peut adopter des pratiques qui vont rendre ça beaucoup plus compliqué, puis qui vont nous permettre d'empêcher une grosse partie des cas de plagiat.
Quel genre de pratique?
Ben, ça demande que les enseignants revoient leur manière d'évaluer, revoir leur conception de l'évaluation. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup d'enseignants qui n'avaient pas d'expérience en enseignement à distance, puis qui, comme les jeunes se sont retrouvés obligés, bien, les enseignants se sont retrouvés obligés aussi. Là. Puis, ils se sont retrouvés obligés du jour au lendemain, fait qu'ils n'ont pas eu le temps nécessairement d'aller se former, fait qu'ils n'ont pas eu le temps de changer leur méthode d'évaluation. Puis là, ils essayent de faire comme ils faisaient en salle de classe, alors qu'ils pouvaient vérifier, qu'ils pouvaient contrôler. Puis là, ben, c'est pas possible. Comment on pourrait faire? Ben, le changement à opérer, c'est clair que si tu es à distance, puis que le jeune ou la personne devant toi elle a accès à une tablette, elle a accès à Internet, etc., dès que tu lui poses une question que je vais dire googlable, donc dès que tu le questionnes sur des faits, ben, soit il va demander à quelqu'un qui va lui donner la réponse, soit il va poser la question à Google qui va lui donner la réponse. Fait que, nécessairement, c'est tellement facile de trouver par d'autres sources que on ouvre la porte à la tricherie, en fait. On pourrait remplacer ça par des analyses de cas, on pourrait remplacer ça par toutes sortes de situations qui demandent de porter un jugement sûr ou d'expliquer. Puis dès lors, ben, Google, il peut pas vraiment me donner une explication. À moins qu'il te mette à chercher en même temps, mais ça, je pense que dans ce cas-là, l'étudiant, il mériterait presque sa note, là. Parce qu'il n'a pas fait ses travaux, il ne sera probablement pas capable de répondre à ce type de questions-là. On a vu des collègues aussi qui ont mis en place, à la place des examens, quand tu donnes un examen, il faut que tu le corriges, donc c'est long, ben, ils ont fait un horaire, puis ils ont mis en place un système d'entrevue. Puis là, ben, ils passaient les jeunes, les apprenants en entrevue, puis ils lui posaient des questions live, puis ils obligeaient les personnes à répondre live.
Ouais. Intéressant, donc, ça, parce que là, on vient aussi, au-delà de Google, empêcher toute possibilité que la personne se réfère à des amis, des collègues de classe qui se fassent des conférences téléphoniques pour s'entendre sur certaines réponses.
c'est en plein ça. On pourrait aussi, dans les outils qu'on a, ça nous permet de créer des petites équipes d'étudiants, puis d'enregistrer les interactions qu'il y a entre les étudiants. Ben, on pourrait, par exemple, on donne une étude de cas, puis là, on forme des équipes de quatre, on les envoie tous dans des salles Zoom séparées, puis on leur donne le cas, on leur donne pas à l'avance, là, on leur donne là, puis ils doivent utiliser leur matériel. Ça leur donne le droit à le matériel, ils doivent utiliser les notes, ils doivent utiliser les exercices qu'ils ont faits, puis ils doivent résoudre le cas, l'analyser, trouver une solution, proposer une solution. Puis ça, ben, tout ce qui se passe sur Zoom, tu peux l'enregistrer. Fait que leur réponse à la fin, tu es capable d'aller voir dans la vidéo de où elle vient. Est-ce tombé tout nu du ciel à quelque part parce qu'ils l'ont trouvé sur Google? T'sais, non, ils l'ont réfléchi.
Il y a toujours, c'est ça, dans le processus d'évaluer ce que l'élève a retenu, un moment donné, il y avait une mode, il y a bien longtemps, qu'on évaluait seulement que le chiffre final. Et un moment donné, avec le temps, on a dit non. Le chiffre final, à quelque part, nous importe peu. On veut savoir le processus que tu as utilisé pour aboutir à ton chiffre, qui était tout autant important, sinon maintenant plus important que le chiffre à la fin.
Ben oui, ça nous permettrait d'avoir des traces de ça. Puis il faut comprendre que, tu sais, ce que je vous ai dit tantôt, il faut arrêter d'éviter de poser des questions googlables. Ben, il y a quelques années, quand on s'est mis à avoir les tablettes dans les écoles et les ordinateurs dans les écoles, c'est quelque chose que nos profs au primaire, au secondaire, ils ont vite compris. Là, tu ne peux plus poser une question googlable. Le jeune, il y a une tablette entre les mains. Ben là, on est confronté à l'université à la même chose. On peut plus poser le même genre de questions, on peut plus utiliser les mêmes tâches d'évaluation. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Par exemple, il y a des formations qui sont associées à des ordres professionnels, puis là, ils sont obligés de passer certains types d'évaluation. Ben là, il va falloir peut-être obliger le face-à-face ou faire trouver des alternatives qui respectent les consignes sanitaires, mais c'est pas possible de les faire à distance parce qu'on pourra pas certifier que la personne qui a répondu à l'examen, elle a vraiment répondu aux questions d'examen.
Parce que ça, c'est la solution facile que les jeunes nous textent à l'instant de dire « Ouais, mais pourquoi ils font pas les examens en présentiel? »
Ben, on peut pas.
Ouais, c'est ça.
Y a pas assez de... Si je prends l'université, j'ai pas fait le calcul, mais je suis pas mal sûr que si on vérifie auprès des immeubles et équipements, on va vous dire qu'il y a pas assez de locaux, là.
Ouais.
Parce qu'un local qui normalement accueillait 50 personnes, ben aujourd'hui, avec les limites qu'il faut respecter, il n'y en accueille 20 ou 25 maximum selon la configuration. Fait qu'il n'y a pas assez de place pour. Il faut savoir, à l'université, il y a des groupes, tu sais, que c'est facilement 40, 50 là, étudiants et même beaucoup plus des fois. C'est plus rare, là, l'UQAC, mais il existe quand même, ben, mettre 50 étudiants dans un seul local, ça prend un très grand local, là. Mais il y a des alternatives, là. Par exemple, on peut demander, il y a moyen de à place d'évaluer des examens, mais on peut demander aux étudiants de produire des choses, des travaux plus longs, qui vont les obliger, qui vont les obliger à revenir sur certaines connaissances, à démontrer certaines habiletés, etc. Puis qui vont permettre aux professeurs d'évaluer pareil où l'étudiant est rendu. Puis ce genre de choses-là, là, ça se trouve pas sur Internet. Les réponses se trouvent pas sur Internet. Fait qu'il y a moyen quand même d'aller évaluer à distance. Il faut juste trouver des solutions, que ce soit l'entrevue, que ce soit les cas, que ce soit des travaux plus longs. Puis on a des outils aussi à l'université. Il faudrait que les profs, les chargés de cours, les utilisent un peu plus. Par exemple, à l'UQAC, on a Compilatio. Compilatio, quand un étudiant me remet un travail, ben moi, je peux mettre le travail dans la machine. Puis Compilatio me dit, regarde, il y a 23% qui viennent de tel site, 5% qui viennent de tel autre site, puis 15% qui viennent de tel autre site.
Ça existait avant la pandémie, ça, là. Ça existait déjà.
C'était avant la pandémie, puis bon, mais c'est pas tout le monde qui l'utilise, mais maintenant, ça existe. Fait que là, on est dans un contexte où les examens, on peut plus vraiment les utiliser, ou c'est difficile. Ben, il faut peut-être se rabattre sur des nouvelles manières d'évaluer ou se mettre à utiliser des outils qui sont à notre disposition, puis qui...
Mais j'ai cru comprendre que, contrairement, exemple, à certaines universités au Québec et au Canada, où on avait réussi à évaluer le nombre de tricheurs qu'on avait capté de plus cette année comparativement aux années précédentes, du côté de l'UQAC, on n'a pas procédé encore à cette compilation-là?
Ben, moi, comme prof, j'ai pas entendu de chiffres. Puis là, je suis pas impliqué dans la gestion d'aucun programme. Donc, je sais pas, je peux même pas te parler d'un programme en particulier.
Je vérifie avec les gens des communications, puis ils me disent qu'ils n'ont pas ces statistiques-là, mais l'UQAC est pas pire qu'une autre université, et pas mieux non plus. Je suis surpris que si certaines universités ont ces chiffres-là, que l'UQAC ne l'aille pas, parce que moi, ce que je veux, c'est que, exemple, Je veux pas que l'UQAC devienne une université de tricheurs où on laisse passer le monde, puis je veux pas surtout que la valeur d'un diplôme soit moindre parce que tu as un diplôme d'université de tricheurs par rapport à une place où ils ont mis des mesures plus serrées.
Ouais, non, mais je pense pas que ce soit le cas. Là. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des universités qui ont décidé de compiler les cas puis de demander à toutes les directions de programme puis à tous les départements qu'est-ce qu'il en était. À l'UQAC, bon, probablement qu'ils n'ont pas encore fait les demandes. Il n'avait pas compilé ces données-là, mais...
Puis encore là, selon... les données, c'est seulement ceux qui se sont fait pogner.
Exactement.
Oui.
Ça ne veut pas dire l'ampleur du phénomène. Avant qu'on se quitte, la grande question, puis Fred l'a abordé un petit peu, est-ce que, vu que le temps qu'on s'adapte, ça va prendre quelques temps, est-ce que les finissants 2020-2021 auront en quelque sorte un diplôme à rabais?
Ben, je pense pas. Je pense que les profs, les chargés de cours sont au courant. On s'en est rendu compte. T'sais, tout le monde s'en est aperçu assez vite. Les profs, veut pas, ils ont quand même ajouté des travaux, ils ont quand même fait des adaptations. Donc, j'espère qu'on va être capable de certifier. Ben, en tout cas, moi, je fais tous les efforts pour être capable de certifier que ceux qui réussissent mes cours aujourd'hui ont développé les mêmes compétences puis ont acquis les mêmes connaissances que ceux qui l'ont fini il y a 2 ans. Alors, c'est toujours un défi de toute façon, hein, parce que c'est pas les mêmes groupes, il se passe pas les mêmes événements, etc. Mais on fait toujours le maximum pour. Je pense que la question du plagiat, elle se pose depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Les profs se sont, au printemps, ça a été dur, mais pour l'automne, je pense que plusieurs profs se sont adaptés, les profs, les chargés de cours, là, je peux pas exclure aucun de mes collègues.
Est-ce que, justement, je vous pose la question parce que vous êtes un peu spécialisé dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation et tout ça. Est-ce que, il existe des normes provinciales par rapport aux nouvelles procédures de surveillance et est-ce qu'il devrait y avoir des normes provinciales, une certaine uniformité en milieu universitaire, exemple au Québec?
À ma connaissance, il n'en existe pas. Ce serait très, très difficile hein, parce que chaque professeur, chaque chargé de cours est libre de choisir sa méthode d'enseignement, puis l'évaluation vient, dans le cadre d'un cours, vient avec ce choix-là. Là. Si on, dépendamment comment on enseigne, normalement, on va évaluer, puis ça va être, faut que ça soit cohérent. Là. Ça prend une certaine cohérence entre les deux. Par contre, dans le cas des ordres professionnels, par exemple, ben eux, les ordres souvent imposent certains examens ou imposent certains tests, que ce soit des tests pratiques ou des examens théoriques, etc. Dans le contexte des autres professionnels, là, c'est souvent le même examen pour tout le monde. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de normes, puis ça serait très, très difficile d'imposer aux enseignants, qu'ils soient professeurs ou chargés de cours, une manière précise d'évaluer, puis un protocole. Par contre, ça pourrait aider les profs si on rassemblait des conseils avec les professeurs et les chargés de cours qui ont plus de difficultés à s'adapter au contexte de formation à distance, ben, avec une série de conseils, ils pourraient progresser un peu plus vite. Il faut savoir qu'à l'UQAC, là, tu t'inquiétais tantôt, mais on a plusieurs conseillers pédagogiques qui travaillent à temps plein. Il y a un service d'urgence, qui a été mis en place dès le mois de mars. C'est sûrement pas parfait, là, mais il y a des gens, des technologies, des gens en pédagogie, des conseillers pédagogiques qui ont travaillé fort pour fournir le plus d'informations et le plus d'aide possible à nos profs pour lui permettre de très, très rapidement virer de bord puis s'ajuster. On a fait mais ça m'implique pas, mais ces gens-là, les trois conseillers pédagogiques, puis les gens en informatique, puis il y a des gens de la bibliothèque qui ont participé. Il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués puis qui ont travaillé quand même très fort pour aider les enseignants, les profs puis les chargés de cours à se virer de bord puis à s'adapter. Puis ça, c'est un effort que l'UQAC, que l'institution a fait là, pour pas que ça se produise que ce dont tu avais peur tantôt, là, que nos diplômes perdent la valeur ou qu'il y ait plus de tricherie à l'UQAC qu'ailleurs.
Monsieur Giroux, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Pareillement, au revoir. Patrick Giroux est professeur aux sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, visiblement, ils ont quand même réussi à s'adapter rapidement. Les données qui sont diffusées au cours des dernières heures, Journal de Québec particulièrement, qui donne ces données-là dans quelques universités, ils ont demandé aux 13 universités de leur fournir des chiffres d'augmentation, de hausse de la tricherie comparativement à l'an dernier. Exemple, Université de Montréal, 40% d'augmentation. Université Laval, on dit que c'est un sommet en 5 ans, ça a bondi de 43%. 5%. Mais il y a 8 universités sur 13, dont l'UQAC, qui n'ont pas fourni les chiffres en question. Est-ce qu'ils les ont, c'est une chose. Puis de toute façon, ça représente une seule partie du portrait, parce que c'est ceux qui se font pincer à la suite souvent de dénonciations ou des profs qui s'en rendent compte. Mais ça, l'ampleur de la tricherie doit être plus grande que ça. L'important, c'est, comme il le disait, de s'adapter rapidement en faisant des évaluations différentes, de sorte que là, on a comparé des chiffres rapidement sur la tricherie comparativement à l'an dernier, mais si tu t'adaptes vite, ben tu vas peut-être bien sauver la période d'ici à la fin de l'année.
Si,
là,
si jamais on se retrouvait à rester beaucoup dans le virtuel au niveau de l'enseignement, c'est important. Moi, tu sais, l'individu à qui on vient de parler là, il dit pas sûr qu'on devrait avoir une plateforme provinciale. Moi, je pense le contraire. Même si lui.
Chaque cours est différent, par contre.
La gestion de. Je comprends ce qu'il dit parce que les professeurs ont une certaine indépendance, mais là, on est rendu dans une grosse affaire. On n'est pas dans un cas de un professeur, finalement, donne son cours virtuel parce que c'est comme ça pour cette classe-là. Là, on est rendu à un niveau provincial d'enseignement postsecondaire où on est très, très, très basculé en virtuel. Je pense que le ministère de l'Éducation devrait peut-être, sans avoir une mainmise, disons peut-être offrir à tout le monde au moins un plancher de surveillance. Et ça, tu sais... Parce que là, il y a une game qui est grosse. Moi, je sais que j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit « On a triché, on pouvait le faire facilement. » Puis ça, là, on vient de parler du dossier universitaire, là.
Imagine au collégial, au secondaire.
Les petits fins finaux au secondaire, là, que c'est pas tout. Puis il y en a des professeurs qui sont brillants, là, qui vont les sentir, là, qui ont... Les professeurs, c'est pas des épais, là, ils ont un sixième sens, là. Ils sentent les petits magouilleurs. Mais il y en a d'autres qui sont soit en fin de carrière ou qui s'en foutent comme dans l'an 40. Comment ça s'appelait, la fin tantôt, le collectivo ou je sais pas trop quoi, là, le logiciel comme tel. Ben, tu sais, probablement qu'il y a ben des petits amphiroipeurs qui ont eu ben du fun au début quand Wikipédia est arrivé. Mais là, les professeurs, ils savent c'est quoi Wikipédia. Et c'est toujours une course à...
Ah, puis encore là, même si c'est des études qui sont reconnues, tu peux les citer d'une façon, mais quand t'en prends trop longtemps, le logiciel est capable de cibler que t'en as trop pris pour ton travail aussi. Ça, c'est une chose. Par contre, pour les examens, ça règle pas tout. C'est l'adaptation vraiment qui sera le nerf de la guerre pour s'assurer que les formations soient équivalentes d'une année à l'autre et d'une université à l'autre aussi. Midi 39, au retour, on devrait parler avec Olivier Primeau, qui est homme d'affaires, qui se fait cibler parce qu'il a choisi un nom anglophone pour sa nouvelle chaîne de pizzeria.
95.7 Saguenay. On revient tout de suite après la pause. Midi Pile.
Rock Auto Toyota met de la couleur dans votre vie avec le RAV4 2021 à partir de $89 par semaine pendant l'événement. C'est l'heure Toyota.
À ton super.